besoin actuellement. D'accord, donc on va arrêter pour le moment. Les salutations, on les reprendra un peu plus tard. Et puis, ce matin, donc, on va prier puis débuter notre étude ou notre exhortation de ce matin. Alors, Seigneur, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes encore. Un moment privilégié, Seigneur, pour plonger nos regards dans ta parole et être instruits, nourris par toi. Plusieurs, Seigneur, ont donné à cette matinée ou à ces rencontres matinales l'image d'un déjeuner spirituel et nous t'en remercions. Nous te remercions, Seigneur, de tout ce que tu mets sur la table pour nous, comme victuailles, comme choses pour notre subsistance. Nous savons que tu pourvois exactement le pain dont nous avons besoin actuellement. Alors nous te demandons, parle et ne retiens point. Nous te demandons, Seigneur, parle sur des situations précises, concrètes dans nos vies. Montre-nous, Seigneur, ce que tu veux changer. Montre-nous, Seigneur, ce que tu veux que nous abandonnions. Montre-nous, Seigneur, ce sur quoi tu veux que nous travaillions sur notre propre vie, afin, Seigneur, d'être un peu plus près de ce que tu attends de nous, être de meilleurs ouvriers, de meilleurs serviteurs, de meilleurs représentants du royaume sur lequel, Seigneur, tu règnes. Alors, Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère, et ce matin, instruis-nous, dirige-nous, conduis-nous. Nous t'avons prié dans ton précieux nom, Jésus. Amen. Alors, comme on le fait depuis dimanche, puisqu'on a commencé la thématique sur l'amour dimanche, encore là, on vous invite à aller regarder la prédication. Il y a des moments émotifs, mais j'ai reçu plusieurs remerciements suite à la prédication. Honnêtement, c'est Dieu qui nous conduit et merci beaucoup de votre appréciation, mais je pense qu'effectivement c'était émotif pour tous, non seulement pour le prédicateur, mais pour aussi ceux qui recevaient. Donc, je suis heureux qu'on ait tous été bénis ensemble dans un moment de partage qui était important pour nous et pour la suite des choses. Et par la suite, donc, on a continué sur cette thématique de l'amour que Paul va décrire comme étant le chemin par excellence ou un chemin par excellence. Et à travers les journées de cette semaine, on étudie les caractéristiques de l'amour qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 8. C'est le chapitre au complet qui est le chapitre de l'amour, mais de façon plus approfondie, on étudie donc du verset 4 au verset 8, là où Paul donne quelques descriptions plus précise, on va dire, sur ce qu'est l'amour. Donc, je vais lire pour vous du verset 4 au verset 8, et après ça, je relirai la section du verset 4 qui est pour nous ce matin. Donc, verset 4 nous dit, toujours dans 1 Corinthiens 13, pour ceux qui ouvrent leur Bible maintenant, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. » Et je vais vous relire ce même passage dans la version du Semeur, toujours à partir du verset 4. C'est quelques mots parfois qui sont différents, qui sont peut-être plus contemporains dans notre compréhension. Voici ce que la version du Semeur nous dit. « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. » Verset 6. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Il persévère. Le verset 8. L'amour n'aura pas de fin. Alors aujourd'hui, on étudie la deuxième partie du verset 4. Dans la version Louis II, on nous dit que la charité n'est pas envieuse, que la charité ne cherche pas à se faire valoir, que la charité ne s'enfle pas d'orgueil. Et dans des versions similaires, on nous dit l'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas vantard, et l'amour n'est pas prétentieux. Quand on parle de charité dans la version Louis II, juste pour remettre les choses dans leur contexte, on parle effectivement de l'amour. C'est tout simplement un synonyme que le traducteur Louis II a préféré utiliser, qui était assurément plus de son époque, mais qui aujourd'hui serait tout simplement utilisé par ou remplacé par le terme usuel, l'amour. Alors, trois points ce matin. L'amour n'est pas envieux, l'amour n'est pas vantard, et l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'est pas envieux, on va être dans, en fait, pour ces trois points, au lieu de d'expliquer ce que veut dire ne pas être orgueilleux, ou ne pas être vantard, ou ne pas être envieux, je vais plutôt expliquer ce que veut dire être envieux. Ça va être plus clair pour nous et on va essayer d'éviter d'être envieux. Je vais expliquer ce que veut dire être vantard et on va encore là essayer d'éviter d'être vantard. Et puis, je vais expliquer ce que veut dire s'enfler d'orgueil ou être orgueilleux et ultimement, dans l'objectif, encore une fois, de ne pas être orgueilleux. Donc, l'amour n'est pas envieux. C'est le terme zélo. Zélo en grec. Donc, zélo en grec. Et ça vient du préfixe grec, donc de la première partie grecque qui est zéo ou etzéo, qui veut dire bouillir, faire bouillir ou fourmiller. C'est comme quand on met un récipient d'eau sur le feu ou sur un rond, sur la cuisinière, et que là, ça se met à bouillir. Donc, ça peut être le gros bouillon lorsqu'on veut assainir une eau et puis on veut une température très élevée. Et parfois, dans d'autres cuissons, on demande simplement à ce que l'eau frémisse. Mais c'est cette pensée de l'eau qui passe d'un stade où elle est froide vers un stade de bouillonnement où elle s'évapore, où elle se répand en vapeur. Envieux serait traduit par jaloux, serait traduit par brûlant d'un zèle. Zélo, c'est de là que vient le terme aussi zélé. Donc être pourvu d'un zèle qui peut être bon, qui peut être mauvais. Dans le cas d'être envieux, c'est bien entendu un zèle qui est mauvais. On dit bouillir d'envie, désirer, aspirer ou être à la chasse de quelque chose, être en chasse de quelque chose. Donc poursuivre quelque chose jusqu'à ce qu'on ait attrapé la chose. L'envieux, c'est la personne qui est habitée par la pensée de ce qu'il n'a pas. C'est comme si tu bouillonnes à l'intérieur de toi juste en réfléchissant à ce que tu n'as pas, le désir que tu as pour une chose que tu ne possèdes pas. C'est être habité par la permanence de cette pensée ou par la récurrence de cette pensée. Et on doit se l'admettre, il y a des gens qui ne regardent pas leurs acquis, qui ne regardent pas les bénédictions et les grâces desquelles Dieu les a couverts, mais regardent plutôt les choses qui leur manquent. Donc, toujours la pensée du verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a des gens pour qui le verre est à moitié plein, donc ils se réjouissent de ce qu'ils ont au moins dans le verre, et d'autres regardent la partie qui est manquante et s'attristent par ce qui leur fait défaut. Et ça va un peu en rapport avec les études bibliques qu'on a eues jusqu'à il y a 2 semaines, où on parlait des béatitudes qui étaient heureux ceux qui, heureux ceux qui, heureux ceux qui. Donc le heureux être contenté. La personne qui est envieuse est incapable d'être contentée, d'être heureuse par la situation qu'elle connaît. Elle est toujours en défaut de quelque chose. Elle est toujours à la quête, à l'aspiration ou languissante vers une chose qu'elle n'a pas. Mais celui qui est envieux, ça va plus loin que simplement désirer une chose qu'il n'a pas. Celui qui est envieux se compare à quelqu'un d'autre, se compare à l'état de son prochain et il désire ce que son prochain a. Celui qui est envieux veut pas nécessairement quelque chose qu'il n'a pas, mais il veut plus précisément quelque chose que quelqu'un d'autre a. Je regarde l'autre personne et j'envie ce qu'elle a. Je regarde son modèle de tondeuse et je dis, moi, je veux la même tondeuse que lui parce que je suis pas satisfait de celle que j'ai ou celle que j'ai. Je suis convaincu qu'elle ne me conviendra jamais autant que celle de mon voisin, celle que mon voisin a et qu'elle pourrait me contenter à un haut point. Donc, c'est désirer ce que son prochain a. Donc, habiter par la pensée de ce qu'on n'a pas, désirer ce que notre prochain a. Et comme troisième point concernant être envieux, ça serait celui qui ne peut pas se réjouir pour et avec son prochain. Donc, c'est genre, je peux pas me réjouir que mon voisin a une super belle tondeuse. Je sais pas s'il y a des gens qui se réjouissent pour la tondeuse qu'ils ont. Moi, je coupe mon gazon avec et ça me contente. Mais il y a des gens peut-être qui regardent la tondeuse du voisin puis disent, je veux exactement ce modèle-là. Quand j'aurai ce modèle-là, à coup sûr, je serai alors satisfait. Et ils ne peuvent pas se réjouir que leur voisin ait cette tondeuse et que eux ne l'ont pas. Donc, ils sont là à médire, ils sont là à regarder avec mépris comment ça se fait que lui a cette bénédiction-là et pourquoi pas moi. Lui, il est mauvais alors que moi, je suis bon. Alors, moi, je devrais mériter cette bénédiction. Et on est tout le temps dans ce processus ou dans cet état où on ne peut pas se réjouir avec notre voisin et on ne peut pas se réjouir pour notre voisin. Ce faisant, on est en train d'enfreindre des recommandations ou des commandements que Jésus nous a donnés. Jésus nous a dit de pleurer avec ceux qui pleurent et ça, on l'a abordé dimanche de façon assez ample lors de notre prédication. Mais le même verset nous dit aussi de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, si mon voisin est en train de se réjouir de sa tondeuse, je devrais être capable de me réjouir de la tondeuse que mon voisin a, de me réjouir du fait que mon voisin a cette tondeuse. Et il y a des gens qui sont totalement incapables de se réjouir des réussites, des succès et des bénédictions ou des grâces qui sont accordées à leur prochain, parce qu'ils sont toujours dans ce mode d'envier ce qu'ils n'ont pas et ce que le voisin a par rapport à eux. Donc, habité par la pensée de ce qu'il n'a pas, désirant ce que son prochain possède et que lui ne possède pas, et qui ne peut se réjouir pour et avec son prochain. Donc, l'amour est contraire à cela. L'amour va penser, va se réjouir, va être contenté. L'amour va faire en sorte que je suis satisfait de mon état. L'amour ne va pas désirer de façon obstinée et de façon qui habite nos pensées continuellement. L'amour va faire en sorte que je ne serai pas en train d'envier, de languir par rapport à ce que mon voisin a. Je serai satisfait de ce que j'ai moi-même. Et l'amour va être capable de se réjouir avec le voisin. « Hey, t'as une nouvelle voiture, good for you, c'est super, génial pour toi, je me réjouis de la chose au lieu d'être là. Mince, pourquoi encore lui là et pas moi? » Le deuxième terme, le terme « vantard », qui est le terme « perperuomai », quelque chose comme ça. J'aurais dû me pratiquer un peu dans la prononciation avant de rentrer en onde. Je vous épelle le mot. Donc, vantard, ou celui qui cherche à se faire valoir, c'est le terme perperuomai. Donc, P-E-R-P-E-R-E-U-O-M-A-I. Donc, deux fois P-E-R, je répète P-E-R-P-E-R-E-U-O-M-A-I. Le terme est divisé en deux, en un préfixe et en un suffixe. Le début du terme perpère, c'est un dévié de péri, qui veut dire qui dépasse, qui est excessif. Et remaille, ou remouaille, vient de rema, On connaît le mot rhéma dans le bon sens du terme lorsqu'une parole nous vient du Dieu, de Dieu de façon spontanée, mais ça peut être aussi utilisé dans des paroles que je prononce de façon spontanée. Donc ici, ce qui dépasse les mots ou des mots qui dépassent, qui sont excessifs. Et ici, c'est des mots concernant nous-mêmes. Le vantard ne vante pas ceux qui l'entourent. Le vantard se vante lui-même. Celui qui se vante est en train de faire l'éloge de sa personne. Donc, qui s'affiche soi-même, qui utilise la rhétorique, donc qui utilise les paroles pour faire son auto-promotion. Celui qui embellit la réalité de ses capacités ou de sa personne. Celui qui tient un discours le concernant comme quoi moi, je fais le meilleur des gâteaux au chocolat de l'ensemble de l'histoire de l'humanité, ou tout au moins de l'ensemble de l'histoire de la ville. Donc, c'est quelqu'un qui, par ses mots, proclame qu'il est supérieur et qui fait l'éloge de lui-même. Le vantard, c'est quoi? Le vantard, c'est celui qui fait l'apologie de sa propre personne. Comprenons, ici, vantard, il faut qu'on parle. C'est pas simplement dans la pensée. La pensée, on va y venir plus tard. Pour l'instant, on s'adresse à la parole. Donc, le vantard va exprimer verbalement, oralement, de façon audible, qu'il est un grand quelqu'un. Donc, il fait l'apologie, il fait l'éloge de sa personne. Le vantard est celui qui utilise ou abaisse l'autre avec ses paroles pour s'élever lui-même. Donc, le vantard va dire des choses récriminantes sur une personne pour l'abaisser, mais l'objectif, c'est pas simplement de garder la personne basse, mais c'est s'assurer que cette personne arrive à un point où elle est plus basse que moi. Et en fait, j'abaisse les autres pour que moi, je sois plus haut ou plus grand. Donc, qui utilise ou qui abaisse l'autre à travers ses mots pour s'élever soi-même. Le vantard, c'est celui qui déforme la vérité en le concernant, donc la vérité à son sujet, la vérité concernant sa propre personne, afin de supplanter les autres. Le vantard ne fait jamais l'éloge de lui-même juste pour faire l'éloge de lui-même. L'objectif du vantard, c'est que en fin de discours, en fin du raisonnement oral qu'il proclame, ben qu'il soit mis à une position qui est plus élevée que la personne qu'il a attaquée, la personne qu'il a visée par ses propos. C'est genre la personne te dit, moi j'ai couru 10 km, et puis toi tu réponds, mais moi j'en ai couru 11. L'important c'est pas que tu en aies couru 11, mais l'important c'est que j'ai couru un peu plus que toi. Donc c'est pour montrer que je suis un peu plus en forme, j'ai un peu plus d'habileté, j'ai un peu plus de force que toi. Donc me mettre un peu plus élevé que l'autre et toujours voir à abaisser par mes paroles, par mes propos, les autres. Et sachant que parfois on fait ces choses-là, je dirais presque inconsciemment. Il y a certaines personnes, c'est pratiquement devenu une deuxième nature. Quand quelqu'un dit, moi, j'ai fait telle chose, ils ont tout de suite le réflexe, mais moi, j'ai fait telle autre chose. C'est comme s'ils sont toujours en compétition dans leur âme, dans leur esprit, et qui fait qu'ils ne sont jamais capables tout simplement d'applaudir, puis de dire, t'as été génial, et de se limiter à ça. Ils sont toujours obligés de ramener leur personne sur l'avant-plan. Et voilà pourquoi on parle de péri au début du terme, qui veut dire excessif. C'est que la chose devient lassante, la chose devient agaçante pour les gens qui sont autour. C'est comme les gens n'ont jamais le sentiment qu'ils peuvent faire quoi que ce soit de bien, parce que toi, tu vas nécessairement arriver avec quelque chose de meilleur. Ils savent que quand ils vont dire A, toi, tu vas dire A plus pour ta propre personne. Donc, l'amour serait quoi si l'amour n'est pas vantard? Ben, l'amour ne fera pas l'apologie de sa propre personne. L'amour n'est pas visé vers soi-même, mais l'amour est visé vers les autres. Donc, l'amour va faire l'apologie de notre prochain. L'amour va parler. Et remarquez bien, quand vous êtes amoureux de quelqu'un, quand la passion vous habite et tout ça, vous allez parler de cette personne, puis vous allez dire, elle fait tellement bien telle chose, elle fait tellement bien telle autre chose. C'est comme vous goûtez pour la première fois à la sauce à spaghetti que votre bien-aimé a préparée, vous l'aimez passionnément. Et vous dites, mais c'est la meilleure des sauces à spaghetti que je n'ai jamais goûtée. Même si avec les années, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres chefs qui sont peut-être, possiblement meilleurs que celle-ci, mais vous avez eu l'éloge par rapport à sa sauce à spaghetti. Pourquoi? Parce que vous aimez la personne, alors vous élevez par vos paroles cette même personne. L'amour, contrairement à celui qui est vantard, ne va pas utiliser l'autre pour l'abaisser pour s'élever lui-même, mais lui-même va abaisser ses prétentions sur lui-même pour que l'autre en face ait l'air très grand. C'est genre, hey, j'ai couru 10 km, puis là tu regardes la personne, ouais, mais t'étais fort parce que moi je suis pas capable d'en courir deux. Donc c'est l'objectif, c'est d'élever l'autre personne avec vos paroles. Contrairement au vantard, l'amour ne va pas déformer la vérité à notre sujet pour supplanter l'autre. L'amour va avoir un regard sincère, un regard humble sur nous-mêmes, afin que notre prochain, nos prochains, notre entourage soit élevé par rapport à nous. Et voilà ce que la Bible nous dit aussi, de faire, que nous puissions nous abaisser afin que Jésus s'élève. Si tu aimes vraiment Jésus, toi tu vas t'abaisser, tu vas reconnaître ta petitesse, tu vas reconnaître que tu n'es rien sans lui, que tu ne peux rien, pour que toute la gloire lui appartiennent. Mais quand tu aimes quelqu'un et quand tu exprimes l'amour de Jésus pour quelqu'un, tu vas faire toi que tu vas devenir le serviteur des autres, tu vas t'humilier toi et t'humiliant auprès des autres, tu es en train d'élever la personne que tu sers. Voilà ce que Jésus a fait lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il s'est humilié. La Bible nous dit qu'il a mis le comble à son amour et après ça, il met une serviette autour de sa taille et il va s'humilier comme un esclave, comme le plus vil des esclaves, pour laver les pieds de ses disciples. Donc ceux qui sont supposés le servir, lui est devenu le serviteur de ces hommes-là en s'accroupissant devant eux et en lavant de façon tout à fait humble et voire même humiliante les pieds de ses disciples. Et c'est ce type d'amour-là qui est supposé nous habiter, qui fait de nous que nous n'avons pas peur de nous abaisser afin que les autres soient élevés. Et finalement, on nous parle donc de l'amour qui ne s'enfle pas d'orgueil ou qui n'est pas prétentieux. Et ici, c'est le terme physio. Donc, PHYSIOO. Je répète, PHYSIOO. Et ça vient de physo, du préfixe PHYSO, qui veut dire souffler, gonfler, enflé. C'est comme un ballon dans lequel tu souffles et la ballonne commence à grossir. Et c'est souvent l'image qu'on a de quelqu'un qui est orgueilleux. On dit aussi qu'il a la tête qui enfle. Ça, c'est une expression que j'ai adoptée depuis mon adolescence, où on disait que la personne ne porte plus sur terre parce qu'elle a la tête enflée, donc elle ne peut plus passer dans un cadre de porte, tellement la tête est enflée, ou même elle a le syndrome de la montgolfière, donc c'est tellement enflé que maintenant elle ne porte plus au sol. Donc ici, c'est vraiment l'image d'enfler, d'être disproportionnément grand, disproportionnément gros par rapport à la réalité des faits. Donc l'orgueilleux se croit plus grand, plus important ou meilleur que l'autre. L'orgueilleux va se regarder puis va dire, je suis meilleur que celui d'à côté. Un peu l'image du publicain et du pharisien. Le publicain qui va au temple et qui s'humilie dans un coin très discret parce qu'il sait que la vie qu'il mène et la réputation qu'il traîne est mauvaise, alors que le pharisien se met dans un coin très public du temple et commence à parler et à prier à haute voix en faisant l'éloge de ce qu'il est et aussi en étant vantard et en, dé, et en abaissant le publicain. Il va dire, moi, je suis heureux de ne pas être comme ce publicain. À ce moment-là, il est vantard. Il abaisse le publicain pour que lui s'élève. Il va dire de surcroît par la suite, mais moi, je jeûne, je fais ceci, je fais cela, je donne ma dîme, je suis tout le temps au temple, patati patata. Et ce faisant, il se croit plus grand, plus gros, plus fort, plus beau, plus intéressant, plus saint que l'autre qui est autour de lui. Donc, celui qui se croit plus grand, plus important ou meilleur que l'autre. Celui dont l'image qu'il a de lui dépasse la réalité des faits. La personne te dit, « Hey, moi, je cours 10 km en 5 minutes. » Il n'y a personne qui court 10 km en 5 minutes. Ça ne se fait pas. Je veux dire, un bon marathonien va faire 40 km en quelque chose comme 2h30, si je ne m'abuse actuellement. Donc, et ça, c'est un bon marathonien. Donc, 10 km en 5 minutes, ça ne se fait pas. Mais si tu entends l'orgueilleux, il est convaincu qu'il fait 10 km en 5 minutes. Donc, il est déphasé par rapport à la réalité. Lorsqu'il se regarde lui-même, il a une image, il a une idée, il a une impression de lui qui dépasse, qui outrepasse la réalité. Donc, une image qui est gonflée. L'orgueilleux, c'est celui qui place toujours l'autre à un moindre rang. Donc, il est à un moindre rang, bien sûr, que lui. Donc, lui, il est là et les autres sont tout le temps là-bas. Alors, que ce soit par sa façon de mener sa vie, que ce soit par ses actions auprès des uns et des autres, que ce soit par rapport à ses relations qu'il entretient avec les uns et les autres, il est toujours en position de supériorité par rapport à l'autre. L'orgueilleux, c'est celui qui se croit aussi digne de reconnaissance. Donc, il arrive dans un endroit et il estime qu'il doit être accueilli correctement, qu'il doit être reçu de façon un peu plus poussée que les autres, qu'il n'a pas à attendre les attentions des uns et des autres au même niveau que l'ensemble de la populace, mais qu'il mérite par ce qu'il est, par ce qu'il a fait, par ce qu'il a accompli, par le point où il en est arrivé dans sa vie, il mérite la reconnaissance. Et enfin, l'orgueilleux, c'est celui qui ne peut pas être reconnu ou qui n'accepte pas de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Donc, j'accepte pas qu'on me reconnaisse moindrement que ce que j'estime être. Donc, j'estime que je suis un 90% de perfection. Donc, reconnaissez-moi comme un 90% de perfection. Et bien sûr, ceux qui veulent se comparer à moi, bien sûr, parce que je suis orgueilleux, ben vous êtes juste des 89%. Vous pouvez peut-être atteindre le 89%, mais si moi je suis un 90, vous pouvez pas l'atteindre. Je suis supérieur à vous. Donc, l'amour serait quoi si elle n'est pas orgueilleuse? Ben, l'amour ne se croit pas plus grand. Ou celui qui aime ne se croit pas plus grand, ne se croit pas plus important ou ne se croit pas meilleur que l'autre. Celui qui aime véritablement va même être capable de devenir le serviteur ou dans cet état ou dans ce rang d'esclave par rapport aux autres. L'amour ou celui qui aime, s'il n'est pas orgueilleux, il n'aura pas de lui une image qui dépasse les faits réels. Il va avoir tendance même à avoir une image qui le rapetisse par rapport à la réalité de ce qu'il est. Il va s'humilier parce qu'il aime. Il va s'abaisser parce qu'il aime. Celui qui aime, contrairement à l'orgueilleux, ne se placera pas toujours dans un rang de supériorité. En fait, il va amener la personne qu'il aime, il va amener la personne à qui il voue son amour, pour qui il manifeste l'amour, il va l'amener à un lieu plus élevé que lui. Genre, on va rentrer dans un endroit et tu vas laisser la place d'importance à quelqu'un d'autre parce que tu manifestes envers cette personne de l'amour. Et on s'entend, l'amour qu'on est appelé à manifester n'est pas simplement avec les personnes que nous aimons foncièrement de façon très simple et naturelle, mais cet amour-là, on est supposé aussi le manifester face à notre prochain, donc à un quidam qu'on ne connaît pas, mais de surcroît à cela, on est supposé aimer nos ennemis. On est supposé aimer nos ennemis de cet amour agapé, de cet amour parfait. Ça veut dire que même nos ennemis, on les élèverait à un rang qui est noble par rapport à celui que nous prendrions pour nous-mêmes. Celui qui aime ne sera pas orgueilleux, ne se comportera pas comme un orgueilleux et ne se croira pas digne de reconnaissance. Celui qui est rempli d'amour, ben, il va pas s'attendre à ce que les gens autour soient tout le temps en train de manifester leur appréciation, puis il ne sera pas à l'attente des applaudissements. La seule chose qu'il voudra, c'est manifester son amour, manifester son affection par rapport aux autres, et il sera contenté de strictement être capable de partager l'amour envers les autres. Et enfin, celui qui aime ne sera pas orgueilleux et pourra accepter d'être reconnu même pour moins qu'il ne l'est. Tu as un doctorat, puis les gens vont te regarder, puis ils vont te parler de toi comme si tu n'avais pas fait l'école et ça ne te dérange pas. Tu as des capacités et les gens les ignorent totalement. Cette ignorance ou cette décision d'ignorer, que ce soit parce qu'ils ne savent pas ou que ce soit parce qu'ils font fi de tes capacités, ça ne te dérange pas parce que la seule chose qui te préoccupe, c'est est-ce que je peux leur montrer de l'amour, est-ce que je peux les couvrir d'amour. Donc, l'amour n'est pas envieux, donc il ne bouillonne pas par rapport à ce qu'il n'a pas et par rapport à ce que son voisin a, il peut se réjouir des bénédictions desquelles sont couverts plutôt ses voisins. L'amour n'est pas vantard, donc il n'utilisera pas ses paroles pour s'élever ou pour abaisser les autres et se laisser dans un rang supérieur. Et l'amour n'est pas orgueilleux, donc de surcroît aux paroles, mais même il n'a pas celui qui est rempli d'amour n'a pas ce système de pensée à l'intérieur de lui, où il se croit supérieur aux autres ou au minimum un peu au-dessus des autres. Donc c'était ce que nous avions pour ce matin. Demain, on va aller donc dans le verset 5 et on va poursuivre notre étude. Mais sur ce, on va prier, après quoi je saluerai les personnes qui se sont jointes à nous. Merci Seigneur pour ce matin, merci pour ce rappel à l'ordre quant à l'humilité qui entoure l'amour, qui accompagne l'amour. On ne peut pas être des manifestants de ton amour en étant orgueilleux, en étant vantard ou en étant envieux des autres. On peut se réjouir des bénédictions que tu donnes à nos frères et à nos sœurs et qui pour nous semblent tarder, mais sachant que ton temps est parfait. Alors Seigneur, je me réjouis pour les bénédictions de ma sœur, je me réjouis pour les bénédictions de mon frère pour lesquelles moi j'aspire encore, mais que tu as comblé, Seigneur, mes bien-aimés avec ces bénédictions. Je te demande, Seigneur, de continuer à répandre ta grâce sur eux. Seigneur, je te demande de m'aider à veiller sur mes propos, qu'à travers mes paroles, qu'à travers ma rhétorique, Seigneur, je ne sois pas en train de m'élever, mais que j'élève l'autre, que je puisse le placer dans ses avant-scènes, Seigneur, plus noble, plus louangé que celles, Seigneur, qui me sont révolues à moi. Je prie aussi, Seigneur, que même la pensée de me croire supérieur, la pensée de me croire arrivé à un certain point où je mérite telle ou telle chose, que cette pensée, Seigneur, ne m'habite pas, mais que la pensée de ta grâce, Seigneur, soit toujours présente en moi, que je me rappelle, Seigneur, que je suis un pécheur qui a tout simplement été racheté sans mes efforts, sans mon concours, simplement que par ta grâce, à cause de ton amour à mon égard et à cause de ta miséricorde. Alors que j'ai l'humilité qui accompagne celui qui a été gracié. Quand on a été sauvés des représailles par rapport à une faute, à une erreur que nous avions commise. Il y a une dose d'humilité qui doit nous habiter. Alors je prie, Seigneur, que cette même humilité puisse s'emparer de moi. Et je prie, Seigneur, que ta fille et ton fils, mon frère et ma sœur, Seigneur, puissent avoir ce même désir. Alors bénis-nous ce matin, bénis-nous dans cette journée, et que nous soyons, Seigneur, des bons représentants de ton peuple, animé, Seigneur, par ton amour, qui n'est pas envieux, par ton amour qui n'est pas vantard, et par ton amour, Seigneur, qui n'est pas orgueilleux. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, qui s'est joint à nous ce matin? On avait déjà la sœur Chanel, que je vous rappelle, c'est l'anniversaire de la sœur Chanel. Donc, le pseudonyme qu'elle utilise, c'est Chanaski SLK. Donc, vous la saluez. On a Linda qui s'est jointe à nous un peu plus tôt. On a Soraya, Manuel, mon ami et mon très très cher ami, le pasteur Dabo. Que Dieu te bénisse, Georges. Ouais, ouais. À chaque fois que je prononce ton nom, je suis content. Alors, merci d'être là. Dieu te bénisse. Qui on a d'autre? On a Pascal, Dieu vous bénisse. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Je vais voir s'il y a d'autres personnes que j'arrive à identifier. La hermana Susana, Dieu la bendiga. Bon, j'aimerais parler à Amara Makasuba. Voilà, soyons clairs. Le seul qui a les réponses s'appelle Jésus. Je vous l'ai expliqué vendredi dernier. Le seul qui a des réponses s'appelle Jésus. Vos talents, vos dons, votre puissance que vous dites spirituelle, elle ne vient pas du royaume de Dieu. Donc, je vous invite à connaître Jésus, à vous repentir et à le recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur. Parce qu'actuellement, vous êtes dans un chemin qui est dangereux et les forces que vous utilisez ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est un simple appel à la repentance et un simple appel à connaître Jésus. Il est la seule voie de salut. Il est la seule voie qui mène à la vie éternelle et il est le pourvoyeur, l'unique pourvoyeur dont nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. Hermana Gloria, Dieu la bendiga. Barca, barca d'être parmi nous ce matin. Shalom. Donc, c'est tout pour ce matin. Frère Mereste, Dieu te bénisse. Content de te savoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que je vois d'autres personnes? Non, je pense que c'est à peu près tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Qu'il soit avec vous et que sa grâce vous accompagne. On se retrouve demain. Donc, demain, c'est demain matin et demain soir. Donc, demain matin, on poursuit notre thématique sur cette voie par excellence qu'est l'amour. Et puis, demain soir, avec le pasteur Sergio, c'est servir Dieu dans des temps de défis comme ceux qu'on voit actuellement. Et je ne saurais répéter trop de fois comme quoi la prédication de dimanche a été importante. Alors, si vous avez le temps, allez visionner la prédication de dimanche. C'est important. Il y a des choses qui vont changer dans notre vie, dans notre façon de faire. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Et puis, on se revoit demain. Bye bye tout le monde.